Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Pensait que ce serait le prochain Apple. Ainsi parlait le 24 septembre dernier Adam Rosendorf, fugace directeur du laboratoire de Theranos, interrogé lors du procès de la fondatrice de la biotech, Elizabeth Holmes, celle qui fut considérée un temps comme l'une des femmes les plus influentes de la planète et poursuivie aux États-Unis pour fraude dans un procès qui passionne l'Amérique de la tech. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction du journal se mobilise pour traiter et disséquer un sujet de l'actualité économique, sociale ou financière. Et aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le scandale Theranos qui a ébranlé la Silicon Valley, comment l'Apple des biotech a fait pchit.
Now to the highly anticipated trial of Elizabeth Holmes, a former billionaire and Theranos founder facing fraud charges. Opening statements were delivered today in a California federal courtroom.
Le procès d'Elizabeth Holmes a démarré le 7 septembre devant la Cour fédérale de San José en Californie. La jeune entrepreneuse a connu avec sa société Theranos un parcours aussi fantastique qu'éphémère jusqu'à la disparition de la biotech. Il y a 3 ans, une mésaventure qui débouchera sur l'un des plus gros scandales industriels du 21e siècle. Bonjour Hortense Goulard.
Bonjour.
Vous êtes correspondante des Échos à San Francisco. Le procès d'Elizabeth Holmes s'est ouvert le 7 septembre. C'est un événement judiciaire dans la vallée ?
Oui, l'histoire de Theranos avait passionné les foules il y a quelques années, donc ça avait éclaté en 2015. Maintenant, le procès est en quelque sorte l'épilogue de cette histoire, donc effectivement, il y a beaucoup de curiosité autour du procès, qui va durer quelques mois donc pour le procès d'Elizabeth Holmes et qui va se poursuivre après en janvier avec l'un de ses associés. Et donc l'un des signes de l'intérêt de ce procès, c'était le fait que le premier jour du procès, il y avait tellement de journalistes et de curieux devant le tribunal que la plupart des gens n'avaient pas pu rentrer.
Qu'est-ce qui lui est reproché ?
Alors le procureur l'a rappelé au début du procès, ce qu'on lui reproche principalement, c'est d'avoir menti et triché pour obtenir de l'argent des investisseurs, en prétendant que l'appareil de test sanguin qu'ils avaient conçu fonctionnait alors que ce n'était pas vraiment le cas. Et donc ils avaient fait des promesses financières complètement délirantes aux investisseurs, des promesses qu'elles ne pouvaient absolument pas tenir. Et le risque principal, évidemment, c'était de mettre en danger la vie des patients en faisant des diagnostics qui n'étaient pas corrects.
On va le rappeler, hein, l'idée de Theranos, c'était ni plus ni moins de révolutionner les tests sanguins.
C'est ça. Alors la vision d'Elizabeth Holmes, c'était d'éviter les piqûres, parce qu'elle disait qu'elle-même avait peur des piqûres, et de fabriquer un appareil qui soit capable de réaliser des centaines de tests sanguins à partir d'une quantité minuscule de sang, en prélevant une goutte de sang au bout du doigt. Et donc ce qu'elle voulait à terme, c'était de construire un appareil que chacun pouvait avoir chez soi pour effectuer des tests ou dépister des maladies. Et en attendant, Theranos avait déjà commencé à déployer ses premiers appareils dans des supermarchés, et effectivement, le problème était que l'appareil ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que les résultats des tests était assez souvent faux.
Alors c'était trop beau pour être vrai, pour un marché estimé à 75 milliards de dollars par an, rien qu'aux États-Unis. Hortense, comment le poteau rose a-t-il été découvert ?
Alors déjà, certains spécialistes avaient des doutes, mais ça n'avait pas vraiment éclaté au grand jour. Mais en fait, il y avait pas de fonds spécialisés dans la santé qui avaient investi dans l'entreprise, parce que donc les gens qui avaient des compétences médicales savaient que ce qu'elle le promettait n'était pas forcément possible. Mais du coup, on n'en parlait pas vraiment. Et donc, ce qui a changé, c'était un médecin qui s'appelle Adam Clapper dans le Missouri, qui avait lu un article du New Yorker sur Elizabeth Holmes et qui trouvait qu'il y avait des choses qui clochent, que c'était un peu trop beau pour être vrai. Et donc, il avait écrit un post de blog exprimant ses doutes, et il a été contacté par un petit groupe de personnes qui avaient eu maille à partir avec Theranos et qui sont allés le voir et qui lui ont dit « Mais en fait, elle promet des choses qui sont pas possibles, enfin qui soulèvent un peu tous les problèmes qu'il y avait autour de cette entreprise. Et donc le médecin en question se dit bon, c'est super intéressant, mais moi je suis pas un professionnel de l'information, j'ai juste un petit blog. Donc il est allé contacter John Carreyrou, qui est un journaliste du Wall Street Journal qui est spécialisé dans les investigations et dans la santé. Donc en lui racontant cette histoire. Et donc Carreyrou va parler notamment à une personne qui était le directeur du laboratoire de Theranos. Et puis, il y a des patients, à des docteurs, à des anciens employés, etc. Donc, il construit son enquête et il publie un article en octobre 2015 qui va déclencher un raz-de-marée. Donc, en révélant que, en fait, la technologie de Theranos ne fonctionnait absolument pas et qu'elle avait menti à la fois aux investisseurs, aux patients et à peu près à tout le monde pour arriver à ses fins.
Mais si on comprend bien, la communauté scientifique n'y croyait pas vraiment. Est-ce qu'elle a alerté un peu dans le désert sur ce modèle Theranos?
Alors, je sais pas s'il y a des gens qui ont vraiment essayé de tirer la sonnette d'alarme. Je pense que c'est plutôt des gens qui avaient des doutes, qui se disaient c'est un peu trop beau pour être vrai. Mais comme ils n'avaient pas forcément la preuve de ce qu'ils avançaient, ils n'ont pas forcément fait beaucoup de vagues. Et en fait, les journalistes qui ont fait des portraits d'Elizabeth Holmes au début ont parlé à des gens qui étaient à son board, qui étaient des gens qui avaient un CV très impressionnant, mais qui ne connaissaient rien au secteur de la santé. Donc, il y avait des grands noms comme le général Mattis, qui a été le secrétaire de la défense de Trump, Schultz, qui a été secrétaire du Trésor sous Nixon et secrétaire d'État sous le président Reagan. Donc des personnes qui n'avaient pas de compétences médicales, mais qui avaient des noms prestigieux et qui, du coup, ont convaincu les investisseurs d'investir dans la start-up, même s'il y avait très peu de substance derrière. Donc il y a des grands investisseurs comme Murdoch ou les héritiers de la fortune de Walmart qui ont mis des millions dans cette start-up, alors qu'ils n'avaient pas vraiment de preuves que ça marchait, mais ils avaient peur de passer à côté de la next big thing de la Silicon Valley. C'était à l'époque où les valorisations d'entreprises comme Uber ou Facebook avaient déjà atteint des sommes délirantes, et du coup ils pensaient que c'était en fait Theranos se présentait comme une entreprise de la tech alors que c'était essentiellement une entreprise du secteur de la santé, qui est sans doute plus difficile d'avoir une invention qui va changer la vie des gens dans ce secteur-là, quoi.
Le scandale éclate, la valeur de Theranos s'effondre, passant de 9 milliards de dollars à une poignée de billets verts jusqu'à la faillite en septembre 2018. Il ne restait déjà plus qu'une douzaine de salariés sur les 800 qu'a compté l'entreprise en 2015. Elizabeth Holmes a alors 34 ans. Mais qui est cette femme et comment est-elle parvenue à faire tourner la tête des grands argentiers de Wall Street et de la Silicon Valley?
Elizabeth Holmes, c'est une jeune femme qui est née en 1984 à Washington DC et qui a créé Theranos alors qu'elle était âgée seulement de 19 ans en 2004.
Anaïs Moutot est journaliste aux Échos, ancienne correspondante du journal en Californie.
En fait, elle a abandonné ses études d'ingénieur en chimie à Stanford, en Californie, au bout d'un an, pour lancer son entreprise. Et elle a réussi à convaincre le chef du département de son université de rejoindre le conseil d'administration de sa start-up. En fait, c'est quelqu'un qui était très ambitieux depuis l'enfance. C'est en tout cas ce que raconte le journaliste John Carreyrou, qui a écrit le livre Bad Blood sur Theranos et qui, à l'époque, travaillait au Wall Street Journal. C'est le journaliste qui a publié plusieurs enquêtes qui ont été un peu le déclencheur de l'écroulement de son entreprise. Et dans ce livre, il raconte qu'Elizabeth Holmes, elle disait vouloir devenir milliardaire dès l'âge de 9-10 ans à des repas de famille. Donc elle a grandi dans une famille plutôt aisée, avec un père haut fonctionnaire qui travaille dans différentes agences gouvernementales avant d'habiter à Houston. Et Elizabeth va y étudier dans un des meilleurs lycées privés. C'est une élève super studieuse qui réussit dès l'âge de 15 ans à se faire admettre à la Summer School de Stanford pour apprendre le chinois. Et une fois fini le lycée, elle est acceptée à Stanford en Californie pour des études donc d'ingénieur en chimie. Son père voudrait qu'elle fasse un PhD, mais elle, très très vite, elle a envie de lancer sa boîte. C'est vraiment son idée depuis qu'elle est jeune. Et donc l'idée de sa boîte, elle l'a parce que à la fois, elle a toujours détesté les seringues et elle voudrait trouver une autre manière de faire. Et vraiment, cette détestation des seringues grossit quand elle fait un stage, en fait, à la fin de sa première année d'études à Singapour, au Genome Institute, où en fait, elle travaille à développer des tests pour détecter le SARS, qui est un peu le prédécesseur du Covid. Et elle collecte des échantillons via des prises de sang et elle se dit que vraiment doit y avoir une meilleure manière de faire. Donc quand elle rentre de ce stage, et ben en fait elle retourne chez ses parents à Houston, elle s'enferme et elle bosse toutes les nuits pour essayer de développer une idée, quoi, un système de prélèvement sanguin différent. Et donc elle décide de créer sa boîte. Ses parents sont d'accord qu'elle utilise tout l'argent qu'ils avaient mis de côté pour ses études à Stanford pour lancer sa boîte. Et puis ils ont plein de connexions de personnes assez riches, donc assez facilement elle convainc les amis de ses parents de lui donner un peu d'argent pour démarrer sa société.
Ce que vous nous racontez là, ça fait penser un peu à un Zuckerberg au féminin. Elle est jeune, elle est belle, elle a la tête bien faite. C'est un peu le rêve américain.
Oui, très vite, ça ressemble typiquement à une success story. Sa start-up, elle va lever plus de 700 millions de dollars. Elle devient en quelques années la jeune pousse la plus valorisée du secteur des biotechnologies, avec une valorisation de 9 milliards de dollars. Donc, faut bien avoir en tête que c'est un montant qui n'est pas très éloigné des deux mastodontes américains du diagnostic, qui s'appellent Quest Diagnostic et Laboratory Corporation of America, qui sont des entreprises qui sont vieilles de plusieurs décennies, qui emploient plus de 45 000 salariés. Donc vraiment, ça devient une des startups les plus en vue. Fin 2013, elle convainc Walgreens, qui est la plus grande chaîne de pharmacie aux États-Unis, de passer un partenariat avec elle. L'entreprise va ouvrir une quarantaine de points de vente en Arizona et en Californie. Donc ça semble vraiment bien marcher, jusqu'à ce qu'il y ait cette grande enquête du Wall Street Journal. Et puis Elizabeth Holmes, c'est un peu l'image typique du fondateur complètement dédié à son entreprise, qui travaille très dur. Tous les portraits d'elle dans la presse parlent du fait qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle n'a pas de petite amie. On apprendra en fait plus tard qu'elle sortait avec le numéro 2 de son entreprise. Et puis de son habitude, comme Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, de porter tous les jours la même tenue noire afin de bien marquer le fait qu'elle n'a pas de temps à se consacrer pour ce genre de futilité qui consiste à réfléchir à comment on s'habille le matin.
Je me déplace pas pour rien, il faudrait que t'aies du lourd. Je me fous que tu m'aimes bien, je perds pas de temps en amour.
Elle était considérée jadis comme la Steve Jobs du secteur pharmaceutique. L'histoire de cette jeune prodige est absolument fascinante. Elle promettait de révolutionner des tests sanguins pour dépister le cancer ou le sida avec cette compagnie qu'elle a appelée Theranos.
On parlait d'elle hein, comme la Steve Jobs de la pharma, la plus jeune femme milliardaire au monde. C'était en 2015. À l'époque, toute la vallée était conquise.
La vallée était vraiment fan. Récemment, il y a la rédactrice en chef du site The Information, qui est l'un des meilleurs médias d'information sur la Silicon Valley, qui racontait qu'elle était allée début 2010 à une fête d'un des plus grands investisseurs de la vallée et que la moitié des invités se pressaient autour d'Elizabeth Holmes sur le terrain de tennis qui avait été transformé en buffet. En fait, célébrer Elizabeth Holmes, c'était aussi une manière pour la vallée de montrer que non, c'est pas un endroit sexiste, que les femmes peuvent fonder des entreprises à succès, les diriger, etc. Et puis, Elizabeth Holmes, elle résonnait aussi complètement avec l'obsession de la Silicon Valley pour les fondateurs charismatiques qui osent prendre des risques, qui sont des drop-outs, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné les études pour lancer leur start-up. Donc Steve Jobs, il n'a même pas fait un an à l'université en Oregon avant de partir. Bill Gates, Mark Zuckerberg, ils n'ont pas terminé à Harvard. Evan Spiegel, qui a créé Snapchat, il a même pas décroché sa licence à Stanford. Donc il y a vraiment cette idée qu'en fait, presque c'est bien d'avoir abandonné ses études. Il y a toute une admiration pour les gens qui font un peu l'école buissonnière, quoi. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est aussi que sa conquête, ça ne se limitait pas à la vallée. Hein. Elle séduisait toute l'Amérique. Donc elle avait d'anciens politicien très haut placé à son conseil d'administration, deux anciens sénateurs et trois anciens secrétaires d'État, dont Henry Kissinger. Elle était très introduite dans les cercles de pouvoir à Washington DC, en partie grâce à son père. On lui déroulait partout le tapis rouge, à la fondation Clinton. Il y a encore des vidéos sur YouTube qu'on peut voir où on voit Bill Clinton qui l'interviewait avec Jack Ma, le PDG d'Alibaba. Barack Obama l'avait nommée ambassadrice d'un programme sur l'entrepreneuriat. Joe Biden, qui à l'époque était vice-président, était venu visiter l'un des deux laboratoires de sa société. Donc voilà, c'était un peu montré comme un exemple d'une réussite scientifique.
Elizabeth Holmes est passée des premières pages de Fortunes et de Forbes à la chronique judiciaire et au prétoire. Hortense Goulard, je reviens vers vous. Vous avez assisté à plusieurs audiences pour Les Échos. Quelle est l'ambiance ?
Oui, alors j'ai essayé d'assister à la première audience, mais malheureusement, je n'ai pas pu rentrer, donc à cause de la foule qui se pressait aux portes du tribunal. Mais la tension est quand même retombée un peu, donc ça s'est un peu calmé depuis. Donc j'ai pu assister à une autre audience vendredi dernier. Donc les audiences ont lieu au tribunal de Saint-Rosé, qui est situé à quelques dizaines de kilomètres de San Francisco. Donc au sud de la baie. Il fallait quand même être présent assez tôt le matin, donc vers 7h30 pour une audience qui a démarré à 9h. Après, bon, l'audience elle-même était plutôt très calme et très technique. Donc c'était l'audience de l'ancien directeur du labo de Theranos, donc qui était la principale source de John Carreyrou, le journaliste du New York Times, qui avait publié l'enquête le premier. Et en fait, c'était l'avocat d'Elizabeth Holmes qui posait des questions à Dan Rosendorf, donc l'ancien directeur du labo. Sa stratégie était un peu de contre-attaquer et d'essayer de montrer que le directeur du labo lui-même n'avait pas pris toutes les précautions nécessaires nécessaire ou que en fait les dirigeants de la start-up se reposaient sur lui pour contrôler l'efficacité des tests et que parfois il avait pu commettre certaines erreurs. Mais donc ça consistait à éplucher de longs échanges de mails entre le directeur du labo et les dirigeants de la start-up, avec en général Elizabeth Holmes qui était en copie mais qui prenait pas forcément part aux discussions techniques. Et donc ils essayent de montrer qu'elle n'était pas responsable, mais pour l'instant il y a eu quand même plusieurs témoignages qui ont été assez accablants pour elle, de personnes qui avaient travaillé au labo, qui avaient essayé de tirer la sonnette d'alarme, de dire mais attendez, ce qu'on fait c'est dangereux pour les patients, et qui n'avaient pas vraiment été entendues.
Beaucoup de témoins ont été appelés à la barre depuis le début du procès, des anciens salariés notamment. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelle image renvoient-ils de la prévenue?
Le témoin le plus important ces derniers jours, c'était donc Adam Rosendorf, qui était donc le directeur du labo de Theranos. Donc, ce qu'il a déclaré au début de son témoignage, c'est qu'il avait de fréquentes conversations avec Elizabeth où il lui exposait ses inquiétudes au sujet du laboratoire, sans qu'elle donne vraiment suite à ses inquiétudes. Donc, il n'a pas manifesté vraiment d'animosité personnelle contre Elizabeth Holmes, mais il a souligné le fait qu'elle restait incroyablement calme en face de tous ces problèmes, comme si, au final, ça n'avait pas vraiment d'importance. Et par contre, il a mis aussi en avant le rôle de Sonny Balwani, donc qui était le directeur des opérations de Theranos et qui était aussi l'amant d'Elizabeth Holmes à l'époque. Ça a été découvert après. Donc en mettant en cause son rôle et en disant qu'en fait il n'avait aucune compétence pour diriger le laboratoire et qu'il cherchait parfois à éviter certaines décisions ou à remettre en question l'expertise technique des scientifiques qui dirigeaient le laboratoire.
Et au moment où le scandale éclate, on va se rendre compte que Theranos n'a pas bidonné que les résultats des tests, ses chiffres financiers sont aussi trompeurs.
Alors en fait, Theranos n'avait pas publié de résultats financiers, donc ils demandaient aux investisseurs de leur faire confiance, donc presque de leur faire un chèque en blanc. Par contre, ils avaient affirmé, donc dans des réunions avec des investisseurs, être cash flow positif, donc ne pas perdre d'argent, être rentable, ce qui était faux. Et surtout, en fait, ils ont publié des estimations complètement folle de ce que pouvait rapporter l'activité de Theranos. Donc en présentant des chiffres différents selon les investisseurs, mais en promettant des bénéfices qui pouvaient atteindre plus d'un milliard de profits à un horizon de 2 ans, alors qu'en fait Theranos perdait de l'argent et n'était pas du tout préparé à atteindre des résultats pareils. Mais donc ils présentaient des chiffres complètement optimistes, à vrai dire complètement délirants, qui ne reposaient sur rien, parce qu'ils n'avaient même pas de directeur financier à l'époque.
Depuis sa création en 2003 jusqu'en 2015, la biotech aura perdu plus d'un demi-milliard de dollars. Le gendarme de la bourse américain a reproché à Theranos d'avoir rédigé de faux rapports pour convaincre des fonds de capital risque de participer à ces levées de fonds. Vous le disiez, elle l'accuse aussi d'avoir falsifié ses comptes. Avec un exemple, en 2014, Theranos revendiquait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le montant s'élevait en réalité à 100 000 dollars. Elizabeth Holmes a signé un accord à l'amiable avec la SEC. Elle a payé 500 000 dollars d'amende. Hortense, quelle est sa défense face à ces accusations de fraude?
Alors, la défense d'Elizabeth Holmes est assez simple. Ça consiste à dire « j'ai essayé, mais j'ai échoué ». Donc, on a essayé de créer cet appareil révolutionnaire ultra performant, mais ça n'a pas vraiment abouti. Après, une autre stratégie qui a été un peu esquissée au premier jour du procès, mais sans trop insister dessus, c'était la mauvaise influence de Sonny Balwani. Donc, en disant qu'elle, elle était très jeune et inexpérimentée, mais qu'elle lui avait fait confiance parce que lui, c'était un homme d'affaires qui avait presque 20 ans de plus et qui était déjà millionnaire, etc. Donc, elle lui a fait confiance et qu'au final, elle n'était pas vraiment responsable de l'échec de Theranos. Et puis après, donc, l'idée générale, c'est un peu de dire que Theranos correspondait à cette culture de la Silicon Valley qui consiste à faire semblant jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, c'est fake it until you make it. Mais que dans son cas, malheureusement, ça n'a pas marché. Mais donc, comme a dit son avocat au début du procès, l'échec n'est pas un crime. Donc, en gros, voilà, c'est ça la ligne de défense d'Elizabeth Holmes.
L'échec n'est pas un crime, mais le procès d'Elizabeth Holmes, c'est aussi un procès pour l'exemple, alors que dans toute la Silicon Valley résonnent aussi les difficultés d'entreprises portées au nu comme Nikola Motors ou WeWork. Elizabeth Holmes, elle a 37 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle risque?
Elle risque jusqu'à 20 ans de prison et jusqu'à 2,75 millions de dollars d'amende, sans compter d'éventuelles compensations des victimes, donc qui pourraient faire grimper encore l'addition.
Sachant qu'elle est ruinée aujourd'hui.
Sachant qu'elle est ruinée, oui. Alors apparemment, elle a quand même un copain qui est très riche, donc je pense qu'elle n'est pas sur la paille non plus. Les médias américains avaient révélé qu'elle vivait dans une villa qui coûtait plusieurs dizaines de millions de dollars pendant le procès, donc je pense qu'elle n'est pas sur la paille non plus. Mais effectivement, elle a perdu sa fortune qui en fait ne reposait sur rien, parce que c'était des actions de Theranos qui n'avait en fait pas de valeur.
What do you dream for?
That less people have to say goodbye too soon to people they love.
I had heard about Theranos and Elizabeth Holmes. But you know, her story is so compelling. She was going to herald a revolution in medical treatment in this country.
Pour aller plus loin, je vous conseille le documentaire sorti sur HBO en 2019, The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley, en attendant la sortie prévue l'an prochain du film Bad Blood avec Jennifer Lawrence dans le rôle principal. Merci Hortense Goulard, correspondante des Échos à San Francisco, et merci aussi à Anaïs Moutot des Échos Weekend. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.